VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, au micro Anne Albertson, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 31 janvier 2020. En République démocratique du Congo, 60 personnes tuées en deux jours dans des attaques attribuées aux ADF dans le territoire de Beni. Cameroun, Maurice Kamto, chef de file de l'opposition, ne pense pas que les élections du 9 février soient la solution aux problèmes du pays. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a gardé hier le mystère sur les révisions qu'il compte apporter à la Constitution. Les États-Unis recommandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Chine en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus qui y a fait 213 morts. Le procès en destitution du président américain Donald Trump entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. Vote possible sur la convocation de nouveaux témoins. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Nouveau massacre dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une vingtaine de personnes ont été tuées hier dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Des détails avec Eddy Issongo.
24 corps ont été retrouvés en 4 endroits près d'Oicha, selon l'administrateur du territoire de Beni, Dona Kibwana. 19 morts ont été comptés dans la même zone par les chercheurs du baromètre sécuritaire du Kivu. Dans la cité de Matumbi, 11 corps ont été retrouvés et 6 autres à Mamouvé. Dans deux villages voisins, 4 personnes ont été égorgées, a précisé M. Kibwana. En deux jours, ces attaques attribuées aux membres du groupe armé d'origine ougandaise ADF ont fait au total 60 morts. L'armée congolaise qui a engagé des opérations contre les rebelles ADF depuis le 30 octobre a affirmé les avoir chassés de leur fief.
Rappelons que dans la nuit de mardi à mercredi, dans cette même zone de la cité d'Oicha, au moins 36 civils ont été tués à la machette par des ADF, et ce, après plus de 3 semaines d'accalmie. Les groupes djihadistes actifs au Mali ne montrent pas de disposition très évidente à un dialogue, a estimé hier à Bamako le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. Et l'ancien président, Diankunda Traoré, a dit il y a quelques jours qu'il y avait envoyé des émissaires pour discuter avec deux leaders djihadistes. Le point avec Bagassi Koura.
S'il y a des représentants des autorités maliennes qui sont tués, les écoles qui sont attaquées, fermées, la population harcelée, ce ne sont pas des symptômes de prédisposition au dialogue très évident, a déclaré hier Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies. La semaine dernière, le haut représentant pour le centre du Mali, l'ex-président Diankunda Traoré, a indiqué avoir envoyé des émissaires vers Amadou Koufa et Yad Ag Gali, deux leaders djihadistes maliens. Nous sommes prêts à lancer les passerelles pour dialoguer avec tout le monde, mais les dirigeants maliens ont jusqu'à présent rejeté officiellement ce dialogue. Il y a eu plusieurs déclarations émanant d'autorités maliennes et nous allons suivre avec intérêt ces différentes prises de position, a dit hier le chef des opérations onusiennes de maintien de la paix. Dimanche, une attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre le camp de la gendarmerie de Sokolo a coûté la vie à 20 soldats maliens. Les djihadistes sont même revenus dans ce camp, planter leur drapeau et l'occuper toute une nuit avant de se replier.
Au Cameroun, les élections législatives et municipales du 9 février ne résoudront aucun problème, selon Maurice Kamto, chef de file de l'opposition. Son parti boycotte le scrutin en dénonçant le désastre né de la sanglante crise dans les régions anglophones. Le point avec Ekia Badou.
Nous n'avons pas décidé de boycotter par posture, c'est un engagement pour changer les choses, transformer la société, a souligné le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et rival malheureux du président Paul Biya à la présidentielle en 2018. Après les États-Unis, Maurice Kamto est passé en France dans le cadre d'une tournée pour alerter la communauté internationale sur la gravité de la situation dans son pays. Véritable guerre civile, le conflit meurtrier qui oppose indépendantistes anglophones à l'armée est un vrai désastre, a-t-il déclaré. L'élection du 9 février ne résoudra aucun problème, au contraire, ça va exacerber la crise, a ajouté M. Kamto. Le statut spécial pour les régions anglophones annoncé en décembre à l'issue d'un grand dialogue national arrive trop tard, a-t-il par ailleurs dénoncé. Nous ne croyons pas que la décentralisation soit une réponse aujourd'hui. En 3 ans, les affrontements ont fait au moins 3000 morts et plus de 700 000 déplacés. L'extrême nord du Cameroun est par ailleurs régulièrement la cible d'attaques du groupe djihadiste Boko Haram.
En Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie de présentation de vœux à la presse hier, le président Alassane Ouattara a gardé le mystère sur les révisions qu'il compte apporter à la Constitution. Mais il a promis que cela aurait lieu en mars-avril. Cette révision annoncée en fin d'année 2019 et dont on ne connaît pas encore le contenu fait l'objet d'une levée de boucliers de l'opposition. L'ancien allié de M. Ouattara, le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié, parle de tripatouillage et l'ancien chef rebelle, candidat à la présidentielle d'octobre, Guillaume Soro, actuellement en exil, la juge inacceptable.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé a décrété hier que l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine et qui s'est étendue à plusieurs régions du monde constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Jacques Aristide.
Pour le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles. Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine, dit-il. Si l'essentiel des contaminations ont été détectées en Chine continentale, 18 autres pays sont touchés, avec plus de 80 cas confirmés au total. Bien que ces chiffres en dehors de la Chine soient relativement faibles, ajoute le patron de l'OMS, la planète doit agir ensemble pour limiter la propagation. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées hors de Chine, en Allemagne, au Japon, au Vietnam, aux États-Unis et en France. L'agence onusienne indique néanmoins qu'il n'y a pas lieu de limiter les voyages, les échanges commerciaux avec la Chine, voire les mouvements de population. De telles restrictions, d'après l'OMS, peuvent être inefficaces, perturber la distribution de l'aide et avoir des effets négatifs sur l'économie des pays touchés. Après les États-Unis et le Japon, d'autres pays planifient d'évacuer leurs ressortissants, tandis que la Russie a indiqué qu'elle fermerait sa frontière avec la Chine aujourd'hui.
Ajoutons que le département d'État a recommandé jeudi aux ressortissants américains de ne pas se rendre en Chine, augmentant le niveau d'alerte dans ce pays d'un cran. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a promis hier la victoire à une foule conquise dans l'Iowa, où ses adversaires démocrates s'affrontent pour déterminer leur candidat à la présidentielle. Le point avec Jean-Roger Bion.
Depuis Des Moines, capitale de cet État agricole qui joue un rôle crucial dans la primaire démocrate, le président américain a dénoncé la folie de la gauche radicale et ironisé sur ses adversaires potentiels. Mettant en avant la vigueur de l'économie américaine, Donald Trump a martelé avoir accompli bien plus que n'importe quel président à ce stade. Un à un, Donald Trump a moqué ses adversaires potentiels. Les primaires démocrates débutent lundi avec le caucus de l'Iowa. Son avis sur le procès historique en destitution mené au Congrès américain, il veut l'annuler. Vos votes, a-t-il lancé sous les applaudissements. Monsieur Trump est mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave à l'enquête du Congrès. Les 53 sénateurs républicains ont jusqu'ici fait bloc derrière le président, mais les révélations de John Bolton sur une confidence du président ont ébranlé les certitudes. Un vote sur la question de poursuivre le procès avec davantage de témoins, dont John Bolton, est prévu aujourd'hui, après la fin hier soir des questions et réponses des sénateurs.
Le compte à rebours a commencé avant la séparation historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce grand saut britannique sera marqué officiellement aujourd'hui à 23h locale et temps universel, après 3 ans et demi de crise qui a emporté 2 premiers ministres. Eric Manirakiza nous en dit plus.
C'est un moment extraordinaire pour notre pays, un moment d'espoir et d'opportunité, a déclaré Boris Johnson sur Twitter. Le premier ministre conservateur remplit sa promesse répétée sans cesse depuis son arrivée au pouvoir en juillet de mettre en œuvre la décision de 52% des Britanniques lors du référendum de juin 2016 en faveur du divorce. Peu de choses vont changer aujourd'hui puisque les règles communautaires continueront de s'appliquer sur le sol britannique jusqu'à la fin de l'année. Londres assure pouvoir conclure un accord de libre-échange avec Bruxelles pendant cette période de transition. La Commission européenne a déjà prévenu que ce délai serait trop court pour se mettre d'accord sur tous les sujets. En attendant, les eurodéputés députés britanniques ont fait mercredi leurs adieux à Strasbourg après la ratification du Brexit par le Parlement européen qui a entonné l'hymne « Ce n'est qu'un au revoir ». Les pro-Brexit, le populiste Nigel Farage en tête, s'apprête à laisser éclater leur joie ce soir devant le Parlement à Londres. Un jour historique, à 23h en temps universel, le divorce sera définitivement consommé.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Sénégal vise une transition vers l'éco-agriculture pour protéger son approvisionnement alimentaire des effets du changement climatique, a déclaré ce jeudi le ministre de l'Agriculture, Moussa Balde. L'objectif est d'augmenter la production alimentaire et les revenus des familles tout en ayant une agriculture plus résiliente face au changement climatique. Les subventions du gouvernement sénégalais en faveur des engrais chimiques ces deux dernières décennies a dégradé le sol et laisser des agriculteurs ignorants de méthodes alternatives, estiment les experts. L'Afrique de l'Est est la région ayant connu la croissance la plus rapide en 2019 avec 5% selon la Banque africaine de développement. L'Afrique australe a enregistré la plus lente croissance en 2019 avec seulement 0,7%. Elle a été freinée par les cyclones Idai et Kenneth et une contraction de près de 13% au Zimbabwe. Pour terminer, après le japonais Toyota, l'allemand Volkswagen va prolonger d'au moins une semaine la suspension de la production de ses usines d'assemblage en Chine en raison de l'épidémie du coronavirus dans le pays. Volkswagen y a écoulé 4,23 millions de véhicules en 2019, soit presque 40% de ses ventes mondiales. Le géant américain Apple a lui aussi reconnu des incertitudes concernant la production de ses sous-traitants en Chine, la réouverture de ses usines ayant été également repoussée. C'est au 10 février.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Maurice se retire de la CAN de futsal.
Oui, le gouvernement mauricien a invité son équipe à se retirer du tournoi. Une décision surprise alors que l'équipe a déjà entamé la compétition. Après avoir été battue 4-2 lors du premier match par la Guinée équatoriale, l'île Maurice devait jouer son second match de groupe hier face à la Libye. Une rencontre finalement annulée. Le groupe A est ainsi réduit à 3 équipes avec la Libye, le Maroc et la Guinée équatoriale. L'île Maurice avait remplacé l'Afrique du Sud démissionnaire pour des raisons politiques liées au lieu d'organisation de la CAN futsal qui se déroule à Laayoune, dans le Sahara occidental, un territoire sur lequel l'autorité du Maroc n'est pas reconnue par la communauté internationale.
Fin du mercato hivernal ce soir.
Oui, les choses bougent sur le marché des transferts. Le Malien Issouf Sissoko, 18 ans, a été prêté pour 18 mois avec option d'achat aux Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain formé au CFC Daoula à Bamako va rejoindre l'équipe réserve qui joue en National 3. Issouf Sissoko fait partie de la sélection internationale des moins de 20 ans du Mali et a notamment participé aux Jeux africains 2019. De son côté, le Ghanéen de 18 ans, Isaac Nouhou, a paraffé un contrat de 2 ans et demi avec le club belge de Casse en Jupiter Pro League.
Eden Hazard revient à l'entraînement.
L'attaquant belge de 29 ans a participé à son premier entraînement avec le Real Madrid. 2 mois après sa blessure à la cheville droite, recrutée des Merengues lors du dernier mercato d'été, Eden Hazard s'est blessé en novembre dernier lors d'un contact avec son compatriote Thomas Meunier contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Malgré l'avancement de son rétablissement, il paraît peu probable que le Belge soit totalement remis pour le derby de Madrid contre l'Atlético ce samedi à Santiago Bernabéu pour la 22e journée de Liga.
Novak Djokovic en finale de l'Open d'Australie.
Le numéro 2 mondial n'a pas éprouvé beaucoup de difficultés à battre Roger Federer 7-6, 6-4, 6-3. Il s'est qualifié pour sa 8e finale à Melbourne où il a remporté les 7 précédemment joués. Désormais, Djokovic mène 27 victoires à 23 dans ses confrontations avec Federer. Le tenant du titre en quête d'un 17e trophée du Grand Chelem affrontera dimanche en finale Dominique Thiem ou Alexander Zverev, opposé aujourd'hui dans l'autre demi-finale. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Toronto et Cleveland 115-109, Atlanta et Philadelphie 127-117, Washington et Charlotte 121-107, Boston et Golden State Warriors 119-104, Denver et Utah 106-100, Sacramento et LA Clippers 124-103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Brazzaville a abrité hier une réunion de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. Les participants, dont trois chefs d'État africains et certains acteurs de la crise, ont décidé de la mise en place d'une commission préparatoire d'un dialogue interlibyen nécessaire avant les prochaines élections. L'Algérie offre ses bons offices pour abriter ce dialogue. De Brazzaville, compte rendu de notre correspondant Arsène Séverin.
La réunion de Brazzaville a ainsi adopté le principe de mise en place d'une commission préparatoire de ce forum de réconciliation. Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères.
Le comité a décidé de créer une commission préparatoire inclusive de la dite conférence. Celle-ci doit être ouverte à toutes les parties prenantes libyennes, y compris les chefs de tribu, les femmes, les jeunes et toutes les autres forces politiques et sociales, afin de promouvoir une solution durable au conflit. En outre, le comité a adopté une feuille de route fixant les principales étapes de ce processus. Le comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'abriter le forum de réconciliation nationale, tout en rappelant la décision prise précédemment par la conférence des chefs d'État d'organiser ce forum à Addis Abeba.
Le président mauritanien Mohamed Houn El Ghazouani et le djiboutien Ismaïl Omar Guelleh ont pris part, aux côtés de Denis Sassou Nguesso, à cette réunion de haut niveau qui a regroupé le premier ministre libyen, les représentants du général Haftar, le président du Parlement libyen ainsi que quelques chefs de tribu. Pour Denis Sassou Nguesso, l'hôte du sommet, on ne peut plus espérer régler la crise libyenne sans compter avec la voix de l'Afrique.
Nous pensons que face à la situation en Libye, et les dirigeants africains au sommet s'y seront au niveau de l'événement. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pensons que l'Afrique saura prendre ses responsabilités.
Sur place en Libye, les Nations Unies notent la persistance des combats dus au réarmement des divers protagonistes. Hassam Salam, l'envoyé spécial de l'ONU en Libye.
Toutes ces nouvelles ne sont pas bonnes parce qu'elles indiquent que le conflit libyen est devenu un aimant pour l'ingérence extérieure de combattants non libyens et de l'envoi de nouveaux équipements militaires. Je me suis adressé une bonne quinzaine de fois au Conseil de sécurité, y compris cet après-midi même depuis Brazzaville.
L'Allemagne, qui a abrité le dernier sommet sur la Libye, s'est montrée disposée à accompagner les efforts des Africains. Klaus-Peter Schnick est l'ambassadeur de l'Allemagne à Brazzaville.
Bon, l'Allemagne à Berlin a déjà dit, une fois que ce forum sera un peu plus concret, l'Allemagne est prête d'assister au financement logistique, personnel. Il faut voir ce que l'Union africaine va nous demander. Même si notre ministre des Affaires étrangères a dû renoncer à venir à la dernière minute, bien sûr, c'est un sujet qui nous reste au cœur et la chancelière allemande va rester dans le dossier et continuer ses travaux.
Par ailleurs, dans la capitale congolaise, plusieurs opposants appellent également à l'implication personnelle du chef de l'État pour la tenue d'un dialogue inclusif avant la tenue du scrutin présidentiel de 2021. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Mali, après l'attaque du camp de la gendarmerie de Sokolo dimanche, attaque qui avait fait une vingtaine de morts et une dizaine de blessés parmi les soldats, les djihadistes se sont donc revenus dans la nuit de mercredi pour brûler ce camp. Ils avaient même planté leur drapeau sur les lieux. Modibo Dambélé a joint hier Malik Konaté, journaliste à Bamako.
À l'heure actuelle, l'armée malienne qui a été attaquée le dimanche, très tôt le matin par les djihadistes, à 15 kilomètres actuellement du village de Sokolo. Hier soir, les djihadistes se sont retournés encore dans ce village-là pour prendre le camp en otage encore. Ils ont brûlé tout ce qui restait comme outil de travail ou de nos famas. Ils ont dormi dans le camp et très tôt le matin, ils sont repartis encore, ils se sont réfugiés et l'armée a envoyé des hélicos pour surveiller le village. Mais selon le maire de la localité que nous avons eu par téléphone, nous avons savoir qu'ils ont allé alerter les autorités compétentes depuis le samedi pour leur dire que les djihadistes sont aux alentours du village et ils veulent attaquer la position de nos femmes. Mais il n'y a eu aucune réaction de la part des autorités.
Lorsque les djihadistes sont retournés, est-ce qu'ils se sont attaqués à la population?
C'est le président de la jeunesse de la localité nous a fait savoir que les djihadistes ne se sont pas attaqués aux habitants de ce village. Ils sont juste venus occuper le camp, installer leurs drapeaux et brûler le reste des matériels qui restaient dans ce camp.
Savez-vous pourquoi l'armée n'est pas intervenue pendant que les djihadistes passaient la nuit à Sokolo après leur attaque?
Selon les informations que nous avons recoupées, après la visite du gouverneur et le directeur général de la gendarmerie, les militaires qui étaient à Sokolo ont fait savoir à nos autorités qu'ils ne peuvent pas rester sans les moyens conséquents. Ils ont demandé à nos autorités de leur donner les moyens pour qu'ils puissent rester au village, sans quoi ils ne vont pas rester. Donc nos femmes se sont repliées pour venir à 15 km du village de Diabali.
C'était le journaliste malien Malik Konaté. Modibo Dambélé a aussi joint, toujours hier, le maire de Sokolo, Dramane Simbara.
Le dernier développement sur le terrain, c'est que après l'événement du lundi, les militaires qui étaient en poste à Sokolo et les renforts qui étaient venus pour les secourir ont quitté leur poste. Donc le village était riche sans aucun porteur d'uniforme. Mais tout le dit, les 18h30, les djihadistes sont revenus. Ils sont retournés au camp pour aller détruire le peu qui restait. Donc ils ont fait leur forfait, ils sont arrêtés dans la mine, puis ils sont repartis depuis le matin.
Pendant ce temps-là, où était l'armée malienne?
L'armée malienne qui était sur place à Sokolo se sont repliés sur le Diabali. Donc pour l'instant, il n'y a pas une seule force de l'armée malienne à Sokolo.
Savez-vous pourquoi l'armée n'est pas intervenue pendant que les djihadistes passaient la nuit à Sokolo?
On n'a pas du tout compris du fait que l'armée s'est retirée du village. On n'a pas d'explication à ça et on n'a pas du tout compris. Ils n'étaient pas là-bas qu'ils sont revenus.
Est-ce que vous avez pu avoir une réaction de la part des autorités régionales ou bien nationales, comme par exemple le gouverneur?
L'information a été partagée et au niveau administratif et au niveau militaire. On a donné l'information à tous les niveaux. Mais jusqu'à la date, au moment où je vous parle, il n'y a pas de réaction.
Lorsque les djihadistes sont revenus, est-ce qu'ils se sont attaqués aux populations civils?
Non, heureusement, ils n'ont pas touché la population civile. Encore, ils sont venus même en ville, à côté de la résidence du sous-préfet. Ils étaient aussi au niveau de la mairie civile et n'ont pas fait de dégâts à l'intérieur du village.
Quel est le sentiment général qui prévaut à Sokolo actuellement face à ces situations?
À Sokolo, que ce soit à mon niveau ou au niveau de toute la population, c'est la déception, la colère et l'amertume. Parce qu'on se sent abandonné par les détruits. On n'a pas mission de défense.
Joint hier au Mali, Dramane Simbara, maire de Sokolo, dans le centre du pays.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Niger, pays affecté aussi par les attaques des groupes terroristes du nord du Mali, plus de 6700 personnes de la région de Tillabéri ont dû fuir leur foyer entre décembre 2019 et janvier 2020 du fait de ces attaques. En tournée dans la région, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est allé à la rencontre de certaines de ces personnes déplacées à Wallam, ville située à 100 km de Niamey, la capitale. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est avec ses deux enfants que Kadi a fui, comme beaucoup d'autres, le village de Tiloua lorsque les militaires nigériens qui y étaient en poste ont décidé de replier plus au sud après les attaques d'Inates et de Shinagoder. Tiloua était le premier refuge des habitants de Inzouet, le village de Kadi, où les terroristes ont exécuté plusieurs personnes. Dans l'espace aménagé à la périphérie de la ville de Wallam par les structures humanitaires comme le HCR, 122 ménages, soit plus de 600 personnes, y vivent. Ils ont reçu mercredi matin la visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.
À Wallam, c'est pas seulement l'urgence que j'ai vue, c'est pas seulement le déplacement qui vient de se passer. J'ai rencontré plusieurs déplacés qui étaient déplacés déjà plusieurs fois à cause des menaces qu'ils avaient eues dans leur communauté d'origine par ces groupes armés, par ces groupes terroristes qui leur disent il faut évacuer ou bien vous allez avoir des problèmes. Et donc ils sont obligés, ils nous ont raconté du soir au matin, ils sont obligés de tout quitter, de tout amener ce qu'ils peuvent amener avec eux et d'aller dans d'autres endroits. Donc c'est une situation qui a ses racines dans l'insécurité et donc bien sûr il faut aussi un effort sécuritaire. Ça c'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité bien sûr aussi des partenaires dans ce domaine de la sécurité et on suit tout ça, on encourage cela à être concret, à être productif.
Au-delà de l'urgence, les structures humanitaires inscrivent leur action dans le long terme pour soutenir les populations en mouvement du fait de la crise sécuritaire, une initiative qui marche fort bien au Niger et saluée par le responsable onusien.
Bien sûr, pour ceux qui sont fraîchement déplacés, il faut apporter de l'aide humanitaire. Ça, c'est clair, parce que les gens qui se déplacent ont toujours des besoins urgents. Mais il faut que rapidement, même dans la phase humanitaire, on pense au long terme. Donc c'est là où je salue un modèle important dans cette région. Et je suis content de commencer d'entamer ma tournée par ce village, par cette ville, parce que ça m'inspire à encourager d'autres populations dans d'autres parties de la région sahélienne à suivre cet exemple de cohésion, d'intégration et de solidarité.
Après le Niger, M. Gandhi est attendu en Mauritanie, puis au Burkina Faso. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Retour sur la visite de travail du président du Bénin, Patrice Talon, cette semaine ici à Washington. Il a eu des rencontres avec notamment des responsables du FMI, de la Banque mondiale et du gouvernement américain, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo. La lutte contre le terrorisme était l'une des questions abordées lors des échanges avec le chef de la diplomatie américaine. Au micro d'Irénée Herman Ungbo, le président Talon a déclaré à propos de la frontière du Bénin avec le Nigeria, qu'elle sera bientôt opérationnelle.
Il y a eu beaucoup de travaux, de son travail, d'entretien avec notre grand voisin pour remédier rapidement à cette situation. Théoriquement, dans les semaines à venir, ça devrait se faire selon les engagements de nos voisins, puisque nous avons pris des mesures, les deux administrations, douanières, la police de ces deux pays, pour entreprendre des missions, des patrouilles, une coopération qui devrait satisfaire les exigences de nos voisins qui estiment que les frontières sont trop poreuses et que des produits qui sont prohibés au Nigeria viennent facilement des pays frontaliers. Ce qui justifie l'essentiel de leurs mesures de fermeture de frontières. Dans les prochaines semaines ou prochains jours, cette situation devrait se normaliser.
Est-ce que lors des tractations, vous notez tout au moins une bonne foi du côté nigérian?
Si on observe une bonne disposition d'esprit, je pense que ça va tout rentrer dans l'ordre bientôt.
Monsieur le Président, parlons justement du Nigeria. Récemment, Abuja a remis en cause la monnaie unique, ECO, telle qu'annoncée par le président Alassane Ouattara. Quelle est la position exacte du Bénin sur cette monnaie?
Le Nigeria, les pays du lasso de Yao qui ne sont pas membres de l'UMOA n'ont pas remis en cause la monnaie unique. Ils ont fait état du fait que ECO sera la monnaie unique de tout lasso de Yao et non d'une partie de lasso de Yao que sont les pays de l'UMOA. Il y a à clarifier un élément de langage. Le nom ECO ne sera vraiment adopté que quand d'autres pays du lasso de Yao vont intégrer cette monnaie unique. Ils ont raison. Nous voulons aller vite pour que l'ECO soit une réalité et nous avons déjà dès maintenant annoncé cela. Mais il faut noter une chose. L'intégration monétaire, la naissance de l'ECO pour l'ensemble des pays de la CEDEAO est un objectif noble. Nous y tenons, nous voulons y aller vite, mais l'impératif du jour, c'est la stabilité monétaire. La volonté d'aller à l'ECO, et même vite, ne remet pas en cause du tout l'impératif de la stabilité monétaire, ainsi que le respect par tous des critères de convergence.
Le président béninois, Patrice Talon.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Kelvin Fowler. Merci à Arnold Burson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.